Vous écoutez, on lit pour vous.
Détourner les jeunes à risque des gangs de rue. Un texte de Cassia Gagnon, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. En ciblant chaque année une vingtaine de jeunes susceptibles de sombrer dans la violence armée, le projet Pivot ambitionne de nouer avec eux un lien de confiance, de leur offrir un soutien constant, des solutions à leurs problèmes. Bref, de leur montrer que la criminalité n'est pas la seule avenue qui s'offre à eux. La presse vous entraîne dans les coulisses de ce projet novateur en marche depuis novembre 2023. Un combat de David contre Goliath. Thierry a 17 ans, des yeux qui rient tout le temps et un sourire craquant. Il a l'air du petit voisin que vous croisez de temps en temps au parc ou à l'aréna. Il y a 6 mois, il s'est fait arrêter pour possession d'armes. Quand la police l'a appréhendé, il a levé les mains en l'air. La crosse de son arme, récemment acquise avec de l'argent obtenu frauduleusement, dépassait de la poche de son blouson. Il est actuellement détenu dans une unité de garde fermée du Centre de réadaptation Cité des Prairies. Il doit y demeurer encore 6 mois. « C'est un délit assez grave, » reconnaît-il. « Nous avons modifié son prénom puisqu'il est mineur. » Thierry a toujours été un enfant dérangeant, intrépide, impulsif. Plus aucun technicien en éducation spécialisée ne voulait travailler avec moi à l'école. Il a dû changer plusieurs fois d'école dans les dernières années de son secondaire. Or, ces nouvelles écoles étaient toutes dans d'autres quartiers. Et chaque fois, le scénario était le même. L'arrivée d'un jeune issu d'un secteur rival faisait jaser. Les élèves l'achalaient. Thierry ne se laissait pas marcher sur les pieds. Il n'aimait pas la façon dont je répondais. Ça finissait en conflit. Les réseaux sociaux amplifiaient l'affaire. Et puis, ça devenait chaud. Dans la dernière école, ses amis et lui ont décidé de répliquer. On est allé à l'école, on a trouvé les gars. Après, ça a mis de l'huile sur le feu. La tension a augmenté. C'est là que l'arme est arrivée. Comment avait-il trouvé l'argent pour acheter une arme? Grâce à la fraude. Avec son groupe d'amis, le jeune Thierry vendait de faux téléphones sur des sites de vente en ligne. « Je suis un beau parleur, » dit-il avec un grand sourire. « On a fait de l'argent quand même. » Thierry faisait-il partie d'un gang de rue? Souvent, au début, ce n'est pas un gang de rue, explique Bert Pierre, intervenant de proximité à Équipe RDP. Selon Bert Pierre, intervenant de proximité à Équipe RDP, ça commence par des amis qui vivent certaines problématiques. Et à partir de là, ils vont vouloir se défendre. C'est après ça que ça devient un gang de rue. Thierry connaît Bert Pierre depuis maintenant 3 ans. Il a toujours été dans le décor, résume-t-il. Tout ce qu'il m'a dit, au final, ça s'est passé. Si on continuait nos bêtises, ça allait finir comme ça. Bert Pierre connaissait donc Thierry bien avant qu'il arrive à Cité des Prairies. Il ne disparaîtrait pas pendant son séjour en réadaptation. Ses visites seront régulières. Et ensuite, il le suivra encore. Une fois qu'il sera sorti, au moment critique où il relancera sa vie. C'est là l'essence du projet Pivot, lancé par le gouvernement du Québec et dont le criminologue René-André Brisebois est le chef d'orchestre. M. Brisebois travaille pour l'Institut universitaire des jeunes en difficulté, affilié au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Le projet se déploie sur 2 axes, la prévention et la mobilisation de la communauté. L'idée est, avec le concours des parents et de différents intervenants, direction d'école, organismes communautaires, policiers, DPJ, de créer un filet de sécurité autour du jeune à risque. On veut que tout le monde fasse front commun pour offrir des opportunités à ces jeunes qui sont impliqués dans la violence armée ou à très haut risque de l'être, explique M. Brisebois. La rue comme adversaire. Le but premier est de créer un lien de confiance avec le jeune, notamment par l'entremise des organismes communautaires qui le connaissent bien, souvent depuis plusieurs années. Deuxième étape, susciter une réflexion chez lui en tentant de l'amener à remettre en question la voie de la criminalité. Et finalement, lui offrir des occasions qui vont venir combler ses besoins. Faciliter son parcours scolaire, lui trouver un emploi, combler un besoin d'appartenance en l'inscrivant à une équipe sportive. Et il faut faire ça rapidement. Ces jeunes, ils n'attendent pas, dit M. Brisebois. Le message général, nous, on croit en toi. Mais une vingtaine de jeunes, n'est-ce pas une goutte dans l'océan? Le criminologue est convaincu que non. Si on cible les bons individus, dit-il, qu'on est là pour eux, qu'on est capable de changer des trajectoires, ça peut avoir un impact sur les statistiques de violence. Il faut remplir le vide. Si on l'occupe, le jeune n'entrera pas en contact avec la rue, dit le directeur de l'école secondaire Henri Bourassa, Younes El Rafiki, l'un des partenaires du projet. La rue est en effet un adversaire de taille. Eux, ils sont disponibles 24 heures sur 24, dit Pierre Inodil, fils, agent de mobilisation dans la communauté de l'organisme Un itinéraire pour tous, aussi partenaire du projet Pivot. Oui, c'est un combat de David contre Goliath. Mais à la fin de l'histoire, David a gagné. Et si la prévention ne fonctionne pas, en fin de compte, le jeune entre en contact avec la police. La police n'est pas la meilleure porte d'entrée avec nos jeunes, observe l'inspecteur Eric Somfol-Fadki, chef de la gendarmerie de l'Est de l'île au service de police de la ville de Montréal, SPVM. Mais c'est peut-être lors de son arrestation qu'il réalise certaines choses. Les policiers proposent donc aux jeunes, après leur arrestation, d'être dirigés vers des intervenants des deux groupes communautaires participant à Pivot. Ils sont libres d'accepter ou non. L'important, c'est de leur montrer qu'il existe des ressources dans la communauté qui peuvent les aider en toute confidentialité. Eric Somfol-Fadki souligne « Avant, on arrêtait, on accusait, et le jeune était juste plus fâché. Maintenant, on essaie d'intervenir auprès d'un jeune, pas d'un criminel. » Et à Cité des Prairies, le centre de réadaptation où se retrouvent ces jeunes mineurs condamnés pour un crime, l'intervention Pivot se poursuit, souligne Mathieu Perrier, qui est responsable du soutien transversal pour les problématiques reliées au réseau délinquant. Nous avons maintenant des cas atypiques ici. Des jeunes de 14 ans qui ont commis des crimes graves contre la personne, alors qu'avant, il y avait une gradation dans les délits. Le passage en centre leur donne l'occasion d'un arrêt. Ils enlèvent leur masque, résume Burt Pierre, et deviennent donc plus réceptifs à l'intervention. Car au bout du compte, ces jeunes vont sortir et vont devoir faire des choix de vie, qu'on espère différents. On a des jeunes de 14-15 ans qui ont commis des crimes et ont l'impression que leur vie est finie. C'est le désespoir. C'est là que c'est important d'avoir des figures significatives dans le quartier, dit René-André Brisebois. Ça peut avoir un effet de levier important. Vous écoutez? Détourner les jeunes à risque des gangs de rue. Un texte de Katia Gagnon, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. Le modèle de Glasgow. Le projet Pivot s'inspire de l'approche mise en place à Glasgow, en Écosse, qui a vu diminuer de 50 % le nombre d'agressions à l'arme blanche grâce à un programme de dissuasion ciblé. En général, dans la littérature scientifique, de telles approches sont menées à des diminutions qui varient entre 33 et 50 de la violence armée, souligne le criminologue René-André Brisebois. C'est un modèle très reconnu. À risque dès la fin du primaire. La prévention contre la violence armée et la criminalité commence dès la fin du primaire pour les intervenants d'équipe RDP, un organisme communautaire fondé il y a près de 30 ans, omniprésent dans la vie des jeunes de Rivière-des-Prairies. L'organisme est actif dans les écoles primaires du quartier dès la 5e et la 6e année pour intervenir auprès de jeunes qui ont été ciblés avec des enjeux précis comme les difficultés scolaires ou la défavorisation. Si on laisse aller presque à 100 %, le jeune va se retrouver à commettre des méfaits, dit Kingsline Toussaint, directrice d'équipe RDP. La clé, c'est la prévention. Ce qu'on leur dit, c'est « n'entre pas là-dedans ». Parce qu'une fois que tu as mis le pied dans l'engrenage, ça va être très difficile d'en sortir. Et pour marteler ce message et tenter d'engager les jeunes vers des activités positives, les 20 intervenants de l'organisme sont partout, dans les écoles primaires et secondaires. Ils organisent une pléthore d'activités, du basket, de l'aide aux devoirs, des camps d'été, des bootcamps pour jeunes entrepreneurs. L'organisme a aussi mis en place le programme Jeunes Leaders, où une quarantaine de jeunes influenceurs dans leur milieu sont désignés pour tenter d'apaiser ou de prévenir des conflits. Biberonner aux jeux vidéo. Tous les jours, les intervenants d'équipe RDP sont dans les rues, à la sortie des classes, au moment où les jeunes déferlent dans les commerces avoisinants. Ce qui nous donne de la force et de la cohérence, c'est qu'ils nous voient partout, dit Bert Pierre, d'équipe RDP. Ces jeunes qui basculent dans la violence armée ont été biberonnés aux jeux vidéo et à l'imagerie d'un certain type de rap, déplore Bert Pierre. Devenir un gangster, c'est devenu normalisé, renchérit Édouard Joseph, son collègue à équipe RDP. Si tu es un jeune qui aime étudier ou faire du sport, tu n'es pas le plus populaire. Le crime est glorifié. Et à la maison, il se retrouve dans un autre monde. Kingsline Toussaint rappelle qu'ils vivent au Québec à l'école, mais à la maison, ils sont en Haïti ou au Maghreb. Ils se retrouvent dans deux cultures en même temps. Nous, ce qu'on dit aux parents, c'est qu'il faut trouver l'équilibre, autant pour le parent que pour le jeune. Au cours des dernières années, Bert Pierre s'est rendu plusieurs fois aux funérailles de jeunes tombés à cause de leurs activités criminelles. J'ai pu ramener certains jeunes parce que j'étais allé dans des veillées funéraires. Il a ainsi convaincu plusieurs dizaines de jeunes de s'inscrire dans des programmes de formation qui les ont menés à des emplois dans la construction. Des parents dépassés. C'est l'école ou la police qui informe les parents que leurs jeunes flirtent avec les gangs de rue, qu'ils se promènent avec une arme. Ils tombent souvent des nus, car à la maison, le jeune n'a absolument rien d'un criminel en puissance. Les parents sont stupéfaits. Comment ça se fait que mon jeune est impliqué là-dedans? Souligne le directeur de l'école secondaire Henri Bourassa, Younes El Rafiki. On fait souvent face à des parents désespérés, dit l'inspecteur Eric Soumfol Fadki. Dans ces cas-là, l'ouverture à la police est beaucoup plus grande. Car ces jeunes qui flirtent avec la violence hors de chez eux comprennent très bien qu'ils doivent se comporter adéquatement à la maison. Les parents, qui ne roulent pas sur l'or, travaillent parfois de longues heures dans une journée. Ils ignorent complètement la vie parallèle que mène leur enfant. En voyant les vidéos qu'ils publient sur les réseaux sociaux, les parents ont un choc, dit Bert Pierre. Ils sont parfois tentés de rejeter leur enfant. Il faut continuer à lui donner de l'amour. Sinon, on donne toute la place aux gangs. Des arrestations de mineurs en hausse. Plus de 1000 dossiers de mineurs accusés d'une ou plusieurs infractions, vol, meurtre, tentative de meurtre, incendie criminel ou possession d'armes, ont été ouverts jusqu'ici en 2024, selon le Bureau d'aide juridique de Montréal. C'est 100 de plus que pour l'ensemble de 2023. En 2023, selon les chiffres du SPVM, le nombre de crimes contre la personne où une arme à feu était présente, homicide, tentative de meurtre et décharge d'armes à feu, avait diminué de 16 % par rapport à 2022. Le nombre de décharges d'armes à feu avait aussi diminué du quart, mais demeurait en hausse de 10 % par rapport à la moyenne des années précédentes. C'était détourner les jeunes à risque des gangs de rue. Un texte de Katia Gagnon, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.
Nouveauté rafraîchissante dans le domaine de la peinture automobile. Un texte de Bertrand Godin, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. On n'arrête pas le progrès, comme le dit si bien l'expression. Voilà qu'une peinture automobile particulière a été testée par le constructeur Nissan qui l'a baptisée sa peinture fraîche. Non seulement ce produit réduit la température ambiante de l'habitacle d'un véhicule en été pour le rendre plus confortable, mais par effet collatéral, la peinture a aussi l'avantage de diminuer la consommation d'énergie du système de climatisation. Développé en partenariat avec Radicool, spécialiste japonais des produits de refroidissement, cette peinture novatrice est composée de métamatériaux. On parle ici de matériaux composites synthétiques dont les structures présentent des propriétés que l'on ne retrouve généralement pas dans la nature. Voilà quelques mois déjà que le constructeur teste sa nouvelle peinture. Nissan a en effet lancé en novembre dernier un essai de faisabilité qui se déroulera sur une année complète. Le test se déroule à l'aéroport de Haneda à Tokyo. On a choisi cet endroit parce que ce lieu dispose d'un tarmac ouvert, parfait donc pour mettre la peinture à l'épreuve en présence d'une température élevée. Pour ce test, la nouvelle peinture a été appliquée sur un véhicule Nissan NV100, précisément le modèle qu'utilisent les employés de cet aéroport. Pour vérifier l'avantage de cette peinture, on a garé deux voitures côte à côte sous le soleil. La première était peinte avec la peinture fraîche de Nissan, la seconde avec une peinture traditionnelle. Or, Dans le cas de la première, on a observé une baisse de la température qui est allée jusqu'à 12 degrés Celsius sur les surfaces de l'extérieur du véhicule et jusqu'à 5 degrés Celsius à l'intérieur. Évidemment, on en a observé les bienfaits. Dans la première cabine, l'entrée dans le véhicule s'est faite de manière beaucoup plus confortable, ce qui a permis, comme espéré, de réduire le temps d'utilisation de la climatisation dans l'habitacle. Nissan a noté par ailleurs que la peinture a permis de diminuer la charge sur le moteur. Avantage indéniable aussi dans le cas d'un véhicule électrique, puisqu'il sera permis cette fois d'épargner la batterie et de gagner en autonomie. Plutôt pratique. Métamatériaux, vous dites. Nissan explique la performance de sa peinture par le fait qu'elle contient deux particules de microstructures qui ont l'avantage de réagir à la lumière. Une des particules reflète les rayons du soleil au lieu de leur permettre de s'immiscer dans la résine de la peinture, comme c'est le cas dans les produits traditionnels. La deuxième particule n'est pas en reste. Même qu'elle permet une véritable percée en générant des ondes électromagnétiques qui neutralisent les rayons du soleil. En fait, non seulement elle les neutralise, mais elle fait bifurquer cette énergie tout droit dans l'atmosphère. C'est ainsi que les particules diminuent la chaleur transmise aux surfaces du véhicule, que l'on pense au toit, au capot, aux portes ou aux panneaux. Même si elle est innovatrice dans le milieu automobile, la peinture de refroidissement par rayonnement que propose Nissan n'est pas tout à fait récente. Elle est déjà couramment utilisée pour les bâtiments et les structures. Souvent, le produit est toutefois très épais et nécessite l'utilisation d'un rouleau pour l'appliquer. Par conséquent, on n'a jamais pensé à ce type de peinture pour les véhicules, d'autant qu'elle peut laisser un résidu cireux au toucher et blanchâtre. Il n'a pas de finition transparente. On ne veut pas ça. Cela dit, on s'est adapté. Pour transposer les bienfaits de ce type de peinture au monde de l'automobile, Nissan est parvenu à incorporer au produit un vernis transparent et à modifier sa texture pour permettre au constructeur de l'appliquer au pistolet et non pas au rouleau. En fait, le constructeur ne pouvait pas faire autrement s'il voulait répondre aux normes rigoureuses de son entreprise en matière de qualité de peinture. Avec le potentiel de cette peinture ainsi développée, Nissan voit un bel avenir pour son produit, en particulier pour son application sur des véhicules utilitaires légers tels que les camionnettes, les camions de livraison et les véhicules d'urgence, autrement dit, tous les véhicules qui passent la majeure partie de la journée sur les routes. Et avouons qu'avec les changements climatiques observés ces dernières années, cette peinture pourrait devenir fort utile pour nous rafraîchir. Disons que le potentiel est assez prometteur dans le contexte actuel. Nissan est encore à peaufiner le tout, mais jusqu'à présent, le constructeur se dit plus que satisfait et se targue d'obtenir des résultats impressionnants. Si la tendance se maintient, le produit pourrait bien se retrouver sur le marché dans quelques années. Ce sera à suivre. C'était « Nouveautés rafraîchissantes dans le domaine de la peinture automobile », un texte de Bertrand Godin, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Premier pas pour le cuir végétal de Flora. Un texte de Simon Laure, paru le 12 novembre 2024 dans La Presse. Fait à base de résidus de pommes cultivées en Montérégie, le cuir végétal développé par Flora pourrait avoir un avenir non seulement dans le marché du vêtement, mais aussi du meuble. Établie à Québec, la jeune pousse prépare sa première production commerciale ainsi qu'une première ronde de financement. À partir du printemps 2025, Flora prévoit lancer sa première ronde de financement. Fanny Laroche, PDG et cofondatrice de l'entreprise, vise également à mettre en branle un quatrième lot de production qui serait son premier lot de production commerciale. Le financement, dont le montant reste à déterminer, servira à embaucher deux personnes, à mousser la promotion et à faire l'acquisition de machinerie spécialisée. Car si l'entreprise compte laisser à ses partenaires la fabrication de son cuir, elle vise à en faire elle-même la finition, soit l'application de vernis, de couleurs et de textures. Quant à la quatrième ronde de production, son lancement au printemps est optimiste, confie Fanny Laroche, mais demeure réalisable. Pour le moment, l'entreprise en est à finaliser les détails de son dernier lot de production pré-commerciale. On vise janvier 2025 au plus tard, dit la PDG. Jusqu'ici, l'entreprise a produit entre 400 et 500 mètres linéaires de cuir. Chaque lot lui permet de raffiner sa recette qu'elle continue de développer depuis maintenant 3 ans. De résidus à cuir de luxe. Styliste de formation, Fanny Laroche a commencé à mijoter l'idée de développer un cuir à base de pommes durant la pandémie. Citation. « J'ai vu qu'une start-up au Danemark avait lancé un tel produit, » dit-elle. « J'en ai commandé, pensant au départ distribuer leur textile, mais j'ai finalement décidé de développer mon propre cuir ici au Québec. » Fin de citation. Elle s'est donc associée avec le chimiste Grégory Hersant. Ensemble, ils ont fondé l'entreprise en 2021. Depuis, soutenus par divers programmes de subventions liés à l'innovation, ils travaillent en collaboration avec le groupe CTT de Saint-Hyacinthe. Il s'agit d'un centre collégial de transfert de technologie, CCTT, spécialisé en textiles techniques et avancés. Cette collaboration a permis à l'entreprise de développer son cuir qu'elle fabrique à partir d'une poudre de pomme. Produite à partir de pelures d'un producteur montérégien qui prépare de la compote, celle-ci est mélangée avec des biopolymères, des agents liants et d'autres ingrédients, la recette est un secret industriel, pour en faire un cuir végétal 100% biologique et biodégradable. Au départ, l'entreprise voulait cibler le secteur du vêtement. Après avoir réalisé des études de marché, toutefois, les cofondateurs ont réalisé que celui du meuble était beaucoup plus grand et donc d'autant plus porteur. C'est donc celui-ci que visera d'emblée Flora. Citation. Au Québec et au Canada, il y a un énorme bassin de designers et de fabricants qui font du meuble de haute qualité, du tabouret au divan. Fin de citation, explique Fanny Laroche, qui voit grand pour son entreprise. Citation. Dans 3 ans, on aimerait lancer l'exportation aux États-Unis sur le marché du meuble et ensuite en Europe pour le vêtement, dit-elle. D'ici là, on estime qu'on pourra doubler le chiffre d'affaires chaque année. Fin de citation. C'était « Premier pas pour le cuir végétal de Flora », un texte de Simon Laure paru le 12 novembre 2024 dans La Presse.